Denis Vasse est médecin psychiatre. Il a fait ses études psychanalytiques sous la direction de Jacques Lacan. Son premier ouvrage paru au Seuil, Le temps du désir, attira l'attention du public. Quant à L'ombilic et la voix, on y trouve le fruit de son travail auprès d'enfants dont les problèmes psychologiques sont de plus en plus répandus.
Denis Vasse, vous faites l'analyse d'enfants. Comment ces enfants vous sont-ils amenés?
D'abord, je tiens à dire que je ne fais pas que des analyses d'enfants. Je fais aussi, et pour la plus grande part, des analyses d'adultes. Parce que ce qui parle dans les adultes et dans les enfants, c'est la même chose, si j'ose dire, et que je refuse une espèce de discrimination quant à l'écoute entre les adultes et les enfants. D'ailleurs, je dois bien avouer que les adultes m'apprennent à écouter les enfants et les enfants m'apprennent à écouter les adultes. Alors, comment me sont amenés les enfants? Eh bien, souvent, pour des troubles, soit scolaires, soit affectifs, des troubles d'enfants, l'enfant qui se roule par terre, qui fait des caprices, qui ne peut pas parler, qui n'arrive pas à la parole, qui a des comportements agressifs, incroyables, ou des comportements alimentaires incroyables, il avale n'importe quoi. Et finalement, c'est l'inquiétude des parents, qu'elle soit suscitée par l'école, par l'entourage ou par eux-mêmes, qui conduit les enfants dans mon bureau. Alors souvent, quand un enfant est malade, qu'est-ce qui se passe chez les parents? Les parents sont inconsciemment très inquiets, mais ils nient cette inquiétude parce qu'ils sentent qu'à travers les rapports qu'ils ont avec l'enfant, il s'agit d'eux. Alors il y a une négation ou une dénégation de l'angoisse chez les parents qui fait qu'on va beaucoup plus trouver un médecin somatique. Parce que c'est beaucoup plus pratique de référer les troubles d'un enfant, mettons, à son tube digestif ou à une maladie quelconque qu'il pourrait avoir somatiquement, n'est-ce pas, et d'en faire la cause de son comportement. Alors que la vérité, c'est que les troubles somatiques de l'enfant s'inscrivent aussi, n'est-ce pas, dans son histoire comme des symptômes. Alors pour nous, le mot symptôme n'a pas du tout la même valeur que pour les médecins habituels. Le symptôme, c'est une parole muette. C'est quelque chose qui ne peut pas se dire, n'est-ce pas ? Qui n'a pas été entendu, qui ne peut pas se dire, et qui se traduit dans un comportement du corps qui peut être véritablement atteint dans ses organes au lieu de trouver son expression symbolique dans la parole.
J'aimerais vous demander, n'est-ce pas aussi, enfin, pour mieux comprendre ce que vous venez de dire, est-ce que d'après vous, les parents sont responsables de la folie?
Non, pas du tout. Je crois que c'est une... la notion de responsabilité qui se trimballe comme ça à propos des troubles d'enfants est une notion qui est à examiner de très près. Il ne s'agit pas de culpabiliser les parents de ce que sont les enfants, n'est-ce pas? Souvent, les troubles des enfants en appellent, si vous voulez, dans la structure que représente une famille, en appellent à la culpabilité des parents. Forcément, quand vous rencontrez un infirme, n'est-ce pas, qu'est-ce qui fait que vous êtes gauche? Qu'est-ce qui fait que vous avez des difficultés à lui adresser la parole? C'est que vous le réduisez à ses symptômes, n'est-ce pas? Et que vous êtes coupable, vous, de vivre dans votre corps, alors que lui ne le peut pas. Vous êtes coupable de vivre. Alors, ce mécanisme-là joue, a fortiori, avec les parents, qui sont toujours coupables, d'avoir mis au monde un enfant qui ne peut pas vivre, qui vit mal. Mais il s'agit pour nous de repérer non pas la responsabilité des parents, mais la structure dans laquelle un enfant vient au monde. Et dans cette structure, nécessairement, ses parents jouent un rôle.
Qu'est-ce que vous voulez dire par structure dans laquelle un enfant...
Je veux dire, par structure, j'entends la possibilité d'envisager l'appareil psychique aussi bien que la famille comme un ensemble d'éléments. C'est ça la définition de la structure. C'est un ensemble d'éléments qui est caractérisé par le fait que si vous affectez ou si vous mobilisez un de ces éléments, tous les autres se trouvent mobilisés en même temps, changent.
Et en quoi, justement, cette structure peut-elle être responsable ou, enfin,
alors, elle
définir
est, elle est proprement la structure de la vie.
Expliquez-moi.
Bien, c'est difficile parce que là, vous m'entraînez dans un domaine technique, mais vous voyez bien que la vie d'un individu se caractérise par... le fait qu'il est dans un mouvement qui n'est réductible à aucun des moments qu'il traverse. Vous voyez ?
Nous ne sommes pas réductibles, par exemple, à cet entretien que nous avons actuellement.
Alors, c'est une des problématiques que la psychanalyse apprend, c'est qu'il y a la pire des agressions, c'est de réduire celui qui vous parle à ce qu'il dit, ou de le réduire, autrement dit, à son symptôme quand il est malade. N'est-ce pas ? Il y a une manière technique de s'occuper du corps des enfants ou des adultes qui est une manière de les réduire à leur propre corps ou à ce qu'on en imagine. Voilà. Or, ça, c'est la maladie psychique. La maladie psychique pour un enfant, c'est d'être emprisonné dans la manière dont il est imaginé par ses parents. Mais voyez bien que, d'une certaine manière, ses parents ne sont pas responsables, au sens où vous le disiez tout à l'heure, de la manière dont ils imaginent leur enfant. Ça dépend de leur propre histoire.
Pourriez-vous me donner un exemple concret ? Dans l'expérience que vous avez là de ces rencontres avec les enfants, il va bien y avoir un cas qui...
Je pense à un enfant qui m'avait été amené parce qu'il était frappé de mutisme. De mutisme sélectif d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il était incapable de parler, il parlait très peu chez lui, il se battait avec son frère, avec ses parents... Et il était incapable de parler à d'autres adultes que ceux de sa sphère familiale. Ce qui, évidemment, inhibait considérablement sa relation scolaire, l'empêchait d'avancer dans ses acquisitions. Alors j'ai vu les parents, on leur avait conseillé de me voir, et je me suis aperçu que la mère de cet enfant était complètement elle-même coincée dans une histoire qui avait pris beaucoup d'importance pour elle. Cette femme avait eu une petite fille qui était née avec une malformation crânienne. Cette petite fille, elle s'y était dévouée corps et âme, et elle avait été finalement opérée, et elle était morte sur la table d'opération, après son intervention. Cette mère était très culpabilisée par la naissance et la vie de cet enfant, culpabilisée par un enfant malade à ce point, ça veut dire, n'est-ce pas, qu'on souhaite qu'il meure sans être capable de se l'avouer et en faisant exactement l'inverse. Donc la mort de cet enfant était venue... confirmer son propre fantasme de mort par rapport à cet enfant. Et c'était au point qu'elle n'avait pas pu faire le travail de deuil vis-à-vis de cet enfant et que la cuisine, la chambre à coucher, la maison étaient restées dans l'état où l'enfant l'avait laissé en mourant. C'est-à-dire qu'il y avait un ours, n'est-ce pas, sur le buffet de la cheminée qui était l'ours de Corinne, il ne fallait pas y toucher, et que cet enfant était constamment et imaginairement présente dans le milieu familial. Alors le petit frère, qui à l'époque avait 2 ans et demi, 3 ans, n'est-ce pas, c'est à partir de ce moment-là où certains troubles étaient apparus. Il faisait pipi au lit, il ne pouvait plus parler, il se bagarrait constamment. Et il y avait une relation, ça avait instauré une relation très agressive, comme toujours, n'est-ce pas, de manipulation entre les enfants et les parents. Alors, j'ai commencé par, quand j'ai vu ça et le point où ça en était, j'ai commencé par expliquer à la mère que tout ce que je viens de vous dire, que de toute façon, cette petite fille était morte parce qu'elle ne pouvait pas vivre, qu'elle voulait mourir d'une certaine manière, et que ce n'est pas elle qui en portait la responsabilité, mais qu'elle croyait qu'elle en était coupable, et que c'était pour ça qu'elle ne pouvait pas arriver à se détacher de l'image de cette fille qu'elle faisait survivre comme ça dans des objets. Alors je lui ai dit, vous allez commencer vous à vivre, n'est-ce pas ? Et j'ai parlé 2 ou 3 fois avec elle, et je lui ai dit, vous allez faire disparaître tous ces objets qui ne font qu'entretenir la culpabilité et ce qu'a représenté cette fille pour vous. Elle m'avait d'ailleurs dit, ce qui est très beau et redoutable à la fois, elle m'avait dit, cette petite fille, qui était morte d'une craniosténose, nous a rapprochés avec mon mari. Donc vous voyez que la parole qui devenait le lieu de l'alliance entre cet homme et cette femme, c'était la maladie d'un enfant. Donc pour les enfants qui étaient là, être au cœur de leurs parents, c'était forcément être malade ou avoir des troubles. Puisque quand un enfant mort est exalté à ce point quand il est mort, les enfants vivants, la solution qui leur reste, c'est de mourir à leur tour ou d'être malade pour rentrer dans la préoccupation des parents. Bon, et de fait, la mère a entendu quelque chose, c'était dur ce que je disais, mais elle a entendu quelque chose, et j'ai commencé un travail analytique avec cet enfant, qui, pendant plus d'un an, n'a pas parlé avec moi, il a dessiné, n'est-ce pas ? Et il faisait des dessins que alors il avait la tête comme ça, et juste, il y avait un regard imperceptible qui me disait oui ou non avec beaucoup de précision. Et il a fallu que je trouve progressivement ce que ces dessins représentaient. Au début, c'était des dessins absolument informes, des dessins de fous, littéralement. Et progressivement, sont apparus dans ces dessins des histoires de guerre, d'Indiens qui s'entretuaient, enfin une espèce de violence, n'est-ce pas, que la mimique de cet enfant ne pouvait pas laisser prévoir et qu'il cachait en lui comme quelque chose qui ne pouvait pas être entendu. Et alors, progressivement, il a fait, de manière très répétitive, un bateau, sur le mât duquel il y avait un chat, et sur le pont duquel il y avait un enfant qui était lui. Et ce chat revenait répétitivement toutes les semaines, je n'y comprenais rien. Jusqu'au jour où, regardant ce chat moi-même sur ce bateau, je me suis mis dans la position de l'enfant sur le pont du bateau, et j'ai levé les yeux, instinctivement, n'est-ce pas, si l'on peut dire, et ce mouvement de lever des yeux m'a réintroduit en moi toute la conversation sur la mer, avec la mer, à propos de cet ours qui était sur le buffet de la cuisine. Et je lui ai dit, c'est l'ours de la petite sœur qui est morte. Et à mon grand étonnement, parce qu'une interprétation n'est vérifiée que dans la mesure où elle est approuvée par celui qui en est l'objet, il m'a fait un signe très approbatif. Et dans la séance d'après, au-dessus, il m'a refait ce bateau, et au-dessus de ce chat qu'il dessinait, qui était donc l'ours de la petite sœur morte, il y avait des nuages faits d'une certaine manière, et d'association en association, il avait fait un nuage fait d'une certaine manière au-dessus de ce chat, et je lui dis, Ce nuage, c'est la couronne mortuaire de la petite sœur. Et progressivement, si vous voulez, il y avait une espèce de libération de son propre mouvement, en ce sens que son corps devenait signifiant pour moi, c'est-à-dire qu'il relevait la tête, il pouvait me regarder en face, etc. Et dans les séances qui ont suivi, le chat a complètement disparu. Autrement dit, j'avais pu, il m'avait contraint à lire quelque chose du fantasme de la mère auquel il devait correspondre dans la préoccupation de cette petite fille, de cette petite sœur, qui l'empêchait de vivre. Et parallèlement, d'ailleurs, ce qui était très, très drôle, donc il a pu, ça a été bien à l'école, ça a été bien dans la famille s'est transformée elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout ces relations agressives et manipulatrices entre la mère et l'enfant. Et progressivement, il s'est mis à parler partout. Enfin, il a acquis sa position de sujet dans l'existence. Et il a continué à ne plus parler uniquement dans la séance analytique. Mais c'était devenu un jeu. C'était donc ce silence qui était devenu le lieu, n'est-ce pas, de la possibilité de se lire, était devenu pour lui la parole. Et pourquoi pas?
Mais vous venez d'employer des mots qui me semblent justement très lourds de sens. Vous avez dit que vous aviez, enfin, grâce à cette relation que vous avez établie avec cet enfant, vous lui avez permis de se libérer.
Oui, tout à fait.
Et vous n'avez pas dit, je lui ai mais pas permis, vous n'avez pas dit, je lui ai permis de devenir normal.
À jamais. Jamais. Nous n'avons aucune possibilité de normaliser les gens, n'est-ce pas? Nous avons, par les conditions de l'exercice de la parole que nous soutenons, nous avons la possibilité de l'ouvrir à ce qui parle en lui et à ce qui le désigne comme sujet parmi les hommes. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire de le réintroduire, de le faire accéder, ou plutôt, nous lui donnons la possibilité d'accéder lui-même à son propre désir.
Accéder à son propre désir de sujet, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire, pour lui, se libérer de, comment dire, on dit des signifiants, mais se libérer des signifiants de l'imaginaire dans lequel il est bloqué et auquel il a imaginairement à s'identifier pour être quelqu'un pour ses parents. N'est-ce pas? C'est-à-dire pour être adapté au désarroi ou à l'allégresse ou au sentiment des parents. Alors que ce qui parle en nous et ce qui nous réintroduit dans notre propre désir de sujet, c'est constamment ce qui nous fait sortir de la manière dont les autres nous imaginent et dont nous nous imaginons nous-mêmes.
Et ce n'est qu'à cette condition qu'on peut avoir des relations vraies avec les autres, j'imagine.
Alors, c'est un processus qui est constamment en jeu partout où ce travail dans l'imaginaire et dans la résistance qu'elle représente nous permet d'entrer à travers lui en rapport avec un sujet que nous ne connaissons jamais.
Et qu'est-ce que cela suppose chez vous, cette écoute des autres, et en particulier cette écoute extrêmement difficile de gens qui ne veulent pas parler, qui veulent continuellement occulter, comme vous dites, c'est pas caché.
Ça suppose, je crois, dans ces cas particuliers, ça suppose de ne pas inciter quelqu'un imaginairement à la verbalisation, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on croit que parce que les gens verbalisent, c'est-à-dire verbalisent phonématiquement, n'est-ce pas, alors ils vont être libérés. Ce n'est pas vrai du tout, n'est-ce pas? Ça peut être une manière de les enfermer dans
la. Il ne suffit pas de s'exprimer pour se libérer.
Il ne suffit pas de s'exprimer. Il faut être écouté, ce qui est tout à fait différent.
Et qu'est-ce que ça veut dire, justement, écouter?
Alors, écouter, dans ce cas-là, ça veut dire que le silence dans lequel s'enferme un enfant de ce type, ce silence, c'est une parole. Il dit quelque chose par là qu'il ne sait pas qu'il dit et que les autres ne savent pas qu'il dit.
C'est une parole qui le concerne ou qui vous concerne?
C'est une parole qui le concerne.
D'abord, oui.
En tant qu'elle concerne tous ceux qui l'entourent, mais qui ne peuvent pas l'entendre.
Mais vous, en quoi vous sentez-vous concerné par cette parole? Est-ce que c'est une parole étrangère, un discours, ou si vous sentez tout à coup interrogé vous-même par cette parole?
Ah ben, on est forcément interrogé par la parole, puisque c'est sa fonction, n'est-ce pas? Ce qui parle en nous, nous parlons parce que quelque chose parle en nous. Le fait que nous parlons témoigne que ça parle en nous. Alors ce qui constitue, je crois, un analyste, au sens rigoureux du terme, c'est finalement que son désir, à cause de son histoire particulière, Freud disait qu'on ne devenait pas analyste par une technique, mais qu'on naissait analyste, et que la technique de l'analyse, si vous voulez, révélait en vous ce désir qui est proprement le désir de l'analyste, et qui a pour objet cette parole. Alors, qui est un objet paradoxal, puisque la parole n'est pas un objet, n'est-ce pas ? Alors, la parole qui parle en vous, c'est pour ça qu'être analyste suppose qu'on ait été analysé. C'est-à-dire qu'on en est décousu soi-même avec sa propre angoisse, avec tout l'imaginaire qui est prisonnier dans le corps et qui cherche à se dire, à partir de ce corps qui est le lieu à partir duquel nous parlons.
Vous avez souvent employé l'expression dans cette conversation de pouvoir vivre, n'est-ce pas ? Précisément, actuellement autour de nous, tout le monde parle de vie. On veut vivre sa vie, on a une rage de vivre sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire vouloir vivre pour vous ?
Ben, comme toute expression humaine, c'est toujours ambigu et c'est... Je veux dire, un analyste a forcément les oreilles braquées sur l'ambiguïté des mots, n'est-ce pas ? Puisque c'est finalement son instrument. Vouloir vivre, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut, dans une idéologie politique ou sexualisante, ça peut vouloir dire vouloir faire ce qu'on a envie de faire. Ça... c'est réduire l'homme aux pulsions qu'il habite. C'est-à-dire, je veux baiser, je baise, je veux tuer, je tue, et ça correspond à un certain épanouissement de, soi-disant, notre être. En fait, ce genre de pulsion anonyme qui nous habite, n'est-ce pas, est ce qui nous entraîne vers la mort. Puisque la pulsion ne se satisfait que de réduire la tension qui nous habite à zéro. Freud en donne cette définition, n'est-ce pas ? Donc vous voyez que quand vous satisfaites la pulsion de parler, vous réduisez à zéro une tension qui est en vous et qui est le désir de vous exprimer. Quand vous satisfaites la pulsion de manger, votre faim disparaît, mais aussi l'objet de votre consommation. Mais vouloir vivre, ça peut vouloir dire désirer vivre, c'est-à-dire en appeler de ces pulsions, qui sont les conditions dans lesquelles nous vivons, sur lesquelles s'étaye le sens de l'existence, c'est-à-dire le désir qui nous fait vivre en tant que sujet parlant, et non pas en tant que sujet agi par des pulsions. N'importe lesquelles. Je crois que ce que l'homme a à faire, c'est à parler. N'est-ce pas ? Et c'est dans la mesure où il parle qu'il parle vraiment, qu'il rejoint cette espèce de lieu organisateur, bon, où l'inconscient joue un rôle, ce lieu organisateur du sujet parlant.
Tout ça est bien difficile, là. Quelle différence faites-vous justement entre le sujet parlant, le lieu de la parole, et puis l'expression dont on nous rabâche les oreilles actuellement.
Eh bien, l'expression dont on nous rabâche les oreilles n'est pas forcément le lieu de la parole.
Quel est le lieu de la parole ?
Le lieu de la parole, c'est comment vous dire ça ? J'allais dire, c'est ce que nous appelons la loi, n'est-ce pas ? C'est-à-dire... le lieu de la parole est à lire dans ce mouvement qui nous fait aller de ce que du sujet de l'énoncé, comme disent les linguistes, au sujet de l'énonciation. C'est-à-dire de ce que nous disons de nous-mêmes à cette parole qui parle en nous et que quand nous parlons, nous n'épuisons jamais. Nous ne sommes jamais identiques à ce que nous disons.
Alors ça fait une tension terrible dans...
C'est cet écart, c'est cette faille, c'est cette division où nous sommes en tant qu'hommes qui est le lieu de la parole. Si vous voulez, c'est ce que toute la théorie lacanienne a, de manière, je crois, définitive, mise au jour.
Et cette faille, elle n'est pas... on ne peut pas la réduire.
Cette faille est irréductible. Ou si vous la réduisez, vous tombez dans une espèce d'organisation imaginaire de vous-même où vous essayez de vous conformer à imaginairement à l'image que vous avez de vous-même. Et à ce moment-là, vous devenez votre propre juge. Vous ne pouvez plus vivre en tant que vous avez constamment à devenir ce que vous êtes.
Le fou, c'est pour l'homme de la rue l'opposé de l'homme normal, de l'homme rationnel. C'est souvent aussi l'opposé du sage. Est-ce qu'il n'y a pas une distinction quand même entre l'homme rationnel et l'homme sage ?
Pas tout à fait, en ce sens que... certainement pas. Vous savez que dans les cours jadis, les cours de roi, le fou avait une fonction tout à fait particulière, puisqu'il était chargé de dire, avec sa folie et sur le mode de la folie, n'est-ce pas, la vérité au souverain. Donc, la folie, en tant qu'elle est, d'une certaine manière, la gardienne d'un sujet que nous ne pouvons pas atteindre et prendre par le discours ou par notre imaginaire, et aussi, d'une certaine manière, la gardienne de l'homme.
Qu'est-ce que c'est que cette vérité ?
Nul ne le sait.
Alors, chacun est laissé à lui-même, finalement.
Bien sûr. Chacun est laissé à ce qui parle en lui, comme ce qui vient de l'autre, si vous voulez. Puisque ça le déloge constamment de ce qu'il s'imagine être. Alors, la vérité, c'est ce qui est à elle-même son propre critère.
C'est donc important pour vous que l'homme soit continuellement délogé, précisément. Que l'homme soit jamais...
Qu'il le veuille ou non, il est constamment délogé de lui-même.
Ben, je ne comprends pas quand vous dites qu'il le veuille ou non. Il me semble que précisément, le malade qui vient vous voir ne veut pas être délogé.
C'est ça. Il ne veut pas être délogé de ses symptômes, et c'est ce qui constitue sa maladie. Mais justement, où il avoue qu'il n'est pas lui-même.
Alors être soi-même, finalement, c'est d'être continuellement en route.
C'est d'être... Je crois que c'est d'être constamment interpellé par la parole qui vient de l'autre. Alors ce rapport de l'homme à l'autre, vous pouvez le lire selon les déterminations historiques qui sont les vôtres, selon ce qui naît en vous. Vous pouvez le lire comme, évidemment, mais ça, c'est la foi et la foi seule qui le révèle, comme lieu de Dieu.
Denis Vasse, je vous remercie.